Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Et chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire, ce soir, au Togo, l'état d'urgence est prolongé d'un an dans la région des savanes, alors que Lomé vise à renforcer la lutte contre le terrorisme, mais les autorités redoutent une possible complicité entre les populations locales et les terroristes. Le président ghanéen en tournée dans l'AES, un pont entre la CDAO et les pays du Sahel pour renforcer les relations régionales, c'est notre fait marquant de la semaine. À Dakar, la localité de Bernier en péril, notre correspondant sur place parle du drame environnemental entre érosion côtière, pollution industrielle et gestion des déchets plastiques menaçant le littoral sénégalais. Lutte féminine au tournoi de la CDAO, une première historique à Abuja. Célébrons l'égalité des sexes et les progrès des femmes dans ce sport traditionnellement masculin. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook et YouTube. Encore une fois, bienvenue. La région des savanes au nord du Togo est frontalière avec le Burkina Faso, reste sous haute tension sécuritaire face à la menace persistante des groupes terroristes qui multiplient les incursions meurtrières. Les autorités togolaises ont décidé de proroger l'état d'urgence sécuritaire de 12 mois supplémentaires. Si cette décision vise à renforcer la riposte militaire, elle soulève également des préoccupations quant à l'attitude des populations locales, parfois soupçonnées de complicité avec les terroristes, tandis que l'opposition alerte sur des droits humains dans cette zone. De Lomé, notre correspondant Kossi Oussou.
Les dernières attaques d'octobre 2024 dans la région des savanes sont encore vivaces dans les mémoires des officiels togolais qui luttent contre les groupes armés qui font régulièrement des incursions meurtrières dans la zone. Selon Odabalo Awate, ministre de l'administration territoriale, les autorités sont déterminées à gagner cette guerre contre les terroristes.
La persistance de la menace terroriste marquée par les tentatives d'incursion sur notre territoire, en exemple les dernières attaques sanglantes et meurtrières des 1er et 25 octobre 2024, commande la poursuite de la lutte afin que les citoyennes et citoyens du Togo puissent vaquer librement à leurs occupations.
Pour ce faire, le gouvernement a sollicité et obtenu de l'Assemblée nationale la prorogation de l'état d'urgence qui devait s'achever le 12 mars prochain. Ceci pour permettre aux forces de défense et de sécurité d'adapter leur riposte à l'évolution de la menace des groupes armés. Calixte Majulba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile.
Oui, la menace persiste. Malgré les efforts du gouvernement, la situation reste fragile et nécessite un soutien continu de nos forces de défense et de sécurité qui sont déployées sur le terrain.
L'attitude des populations locales soupçonnées de commercer avec les terroristes est dénoncée par Kanfitine Sankoubine, un élu de la région.
Moi, je viens de la préfecture de Kouindjal-Ouest et nous vivons des difficultés énormes parce qu'il y a des complicités. Malgré qu'on interdise aux gens de faire des déplacements vers la zone rouge, les gens y vont et après des enquêtes, on a constaté que ce sont ces gens-là qui vont donner des informations à l'ennemi. C'est des gens qui vont vendre de l'essence, le maïs, l'huile, etc. Qui font aggraver la menace.
En appliquant l'état d'urgence dans la région des savanes, la députée de l'opposition, Kafui Adjamagbo-Johnson, demande aux forces de l'ordre et de sécurité de ne pas brimer les droits élémentaires des citoyens qui y vivent.
Il nous est revenu malheureusement que l'état d'urgence a entraîné des arrestations arbitraires dans les préfectures de Kouindjal-Ouest, Sinkassé, Kouindjal. On a fait mention aussi de torture et de mauvais traitements. Et tout ça nous inquiète.
Admettant quelques restrictions imposées aux populations, le ministre des Droits de l'Homme a balayé du revers de la main ces allégations. Paco Madjourouvi a indiqué que la Commission nationale des droits de l'homme et le Comité international de la Croix-Rouge sont présents sur le terrain et veillent au grain. Kossi Wusu, Lomé, pour VOA Afrique.
Suivons cette discussion avec Faustin Wusu Kossi qui est en ligne avec nous. Kossi, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Alors, comment les médias togolais internationaux ont-ils couvert la prorogation de l'état d'urgence dans la région des savanes?
Alors Eric, il faut dire qu'il y a bien longtemps que les médias nationaux se sont fait une raison sur le traitement de ce qui se passe dans la région des savanes. L'engouement observé dès les premières attaques s'est très vite estompé quand le gouvernement et les forces de défense et de sécurité ont fait le choix de ne plus communiquer sur les attaques terroristes. Jusqu'à présent, aucun média n'a été autorisé à aller sur le théâtre des opérations dans la région des savanes. Et ce ne sont pas les demandes des médias qui ont manqué. Alors, n'ayant plus de répondants, l'actualité liée à la situation sécuritaire dans la région des savanes n'est couverte qu'en de rares occasions à travers des dépêches sommaires, comme c'était le cas pour l'adoption de cette loi de prorogation de l'état d'urgence. Eric.
Quelle réaction avez-vous observée parmi les différentes couches de la société togolaise suite aux accusations de complicité entre certaines populations locales et les terroristes?
C'est vrai que cette information a de quoi surprendre certains Togolais qui disent ne pas comprendre une telle attitude de ceux qui subissent eux-mêmes les barbaries des terroristes. Rappelons que les attaques de ces terroristes ne font pas que des victimes dans les rangs des forces de l'ordre. La population civile aussi en pâtit. Donc c'est incompréhensible que ces dernières leur apportent une certaine aide. D'autres Togolais tentent de trouver des explications liées à la pauvreté, car, disent-ils, malgré les multiples projets du gouvernement mis en œuvre dans la région pour alléger la souffrance et améliorer la vie des populations, eh bien, ces dernières parviennent difficilement à joindre les deux bouts, ce qui peut expliquer le choix de certaines personnes d'emprunter cette voie facile de vendre des marchandises aux terroristes, d'autant qu'ils les cèdent à prix d'or.
Faustin, en quelques secondes, les autorités ont-elles répondu aux préoccupations soulevées par l'opposition concernant les arrestations arbitraires et les allégations de mauvais traitements dans la région?
À l'Assemblée nationale, où le sujet a été évoqué la semaine dernière, le ministre des Droits de l'Homme a reconnu que du fait de l'état d'urgence, forcément, il y a quelques restrictions de liberté. Mais il s'est empressé de dire que c'est pour le bien des populations elles-mêmes que ces restrictions ont été édictées. De là à en parler d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements à l'endroit des populations, il ne saurait y souscrire. S'il y a eu des arrestations de ce genre dans la région, le gouvernement l'aurait su, a-t-il indiqué. Le président de l'Assemblée nationale a quant à lui proposé que les députés se rendent dans la région pour prendre le pouls réel de la situation sur place. Voilà Eric.
Faustin Wusu Kossi est notre correspondant. Alomé, merci pour toutes ces explications. Nous avons quelques commentaires de nos auditeurs sur notre plateforme Facebook. Yombu Kwami dit ceci, je cite, qui peut affirmer que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans cette lutte. Il est vrai que le terrorisme peut se manifester partout, même dans les pays occidentaux, par le biais de complices. Toutes les mesures nécessaires sont mises en place pour éviter la diffusion de fausses informations. Bernabé Sedoufio, il dit, le problème est plus complexe qu'il n'y paraît. Les mêmes causes entraînent souvent les mêmes conséquences. Le dénominateur commun reste l'injustice sociale et la mauvaise gouvernance. Enfin, Alphonse Mbouaki à Kinshasa, il dit, sur la prolongation de 12 mois, elle semble excessive après 3 ans d'insécurité non maîtrisée. Il serait préférable de raccourcir ce délai et de renforcer le contrôle. Pour approfondir cette discussion, Nous avons notre analyste Bakary Samb, directeur régional de Timbuktu Institute, Centre africain d'études sur la paix. Il est enseignant, chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Ses travaux portent sur les stratégies endogènes, les dynamiques transfrontalières et l'expérimentation d'approches agiles dans les zones de crise. Bakary Samb nous a accordé cet entretien il y a quelques instants. Il explique d'abord si l'approche togolaise a porté ses fruits ailleurs dans la région SUV.
Il est vrai que le Togo a toujours choisi cette approche sécuritaire, notamment au nord, dans la région des savanes, en imposant une forme d'état d'urgence pour régler les urgences sécuritaires. Cette région qui est exposée à l'avancée de ces groupes à partir du Burkina Faso avec des zones de vulnérabilité comme dans le Pénial. Cette approche, si l'on essaie de l'analyser, trouve en tout cas ses explications dans une forme de gestion à deux temps de la menace. D'abord, stopper l'avancée de ces groupes-là et leur incursion sur le territoire togolais, mais aussi essayer de sécuriser une zone très très vaste avec des communautés qui connaissent un certain nombre de velléités et de conflits.
Bakary, dans quelle mesure la situation sécuritaire au Togo s'inscrit-elle dans le contexte plus large de la crise au Sahel, notamment avec l'insécurité persistante au Burkina Faso voisin ?
Dans la typologie des pays de la région où il y a différentes catégories avec des pays déjà largement atteints par un phénomène djihadiste massif et des pays qui sont sous haute pression sécuritaire et d'autres qui peuvent développer encore une approche prospective et préventive, le Togo serait entre la pression que l'on voit depuis le Burkina Faso avec cette avancée des groupes, en tout cas leurs incursions régulières, mais aussi dans le cadre d'un travail de prévention, si l'on sait que pour le moment, la zone qui est touchée, c'est la zone de la région des savanes, dans les départements de Pendjal, dans les zones comme Mandouri, mais aussi dans les zones comme Saint-Cassé, qui sont pas loin des frontières burkinabées, alors que aujourd'hui la menace avance avec des incursions régulières, mais aussi du harcèlement des forces de sécurité et de défense. Et là se trouve le problème où il faudrait une forme d'approche mixte pour d'abord taire les tensions intercommunautaires qui sont réelles dans cette zone, mais aussi gérer les impératifs sécuritaires urgents comme essaye de le faire le gouvernement avec les moyens militaires, avec la mobilisation d'une certaine capacité militaire pour faire face à ce danger.
Et quelle est la probabilité que les groupes armés présents au Burkina Faso étendent leurs opérations vers d'autres pays côtiers comme le Bénin ou le Ghana ?
Les groupes terroristes avancent depuis très très longtemps, mais il ne faut pas négliger le fait qu'il y ait une forme de connexion entre les groupes criminels de cette région du Golfe de Guinée et les groupes terroristes depuis très très longtemps, notamment dans le nord du Mali. Ce n'est pas un fait nouveau. Je crois qu'il y a des zones de circulation, des zones de trafic qui sont dessinées depuis très très longtemps. La menace aujourd'hui, elle est réelle, hein, au nord du Bénin, notamment dans le département de la Liborie. On a vu des attaques récentes, mais aussi dans des zones comme Malanville, et dans une moindre mesure dans la Takora, dans les zones qui sont proches du parc. Aujourd'hui, le Bénin est en train de devenir une forme d'épicentre côtier de cette menace terroriste qui s'affirme de plus en plus, avec notamment, comme cela s'est illustré tout dernièrement, avec des attaques massives et enfin, par exemple, 28 soldats qui ont été tués au Bénin dans cette région du Nord.
Quel défi supplémentaire cela pose-t-il aux forces de sécurité togolaises, notamment en termes de respect des droits de l'homme et de préservation de la confiance des populations locales ?
C'est une question classique, toujours, de cette corrélation entre, en tout cas, cette contrainte de devoir gérer les impératifs sécuritaires et des respects des droits humains. Donc, on le trouve dans tous les terrains, il y a des opérations de lutte contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, je crois que le Togo, qui a été un petit peu surpris par l'avancée de ce phénomène-là, a adopté la méthode forte. Mais il faudrait dire que je crois que les autorités ne négligeraient pas la dimension dialogue communautaire, mais aussi une dimension beaucoup plus axée sur, certes, la gestion des urgences sécuritaires, mais aussi le dialogue avec les communautés locales qui, il faut le dire, ont un rôle fondamental pour lutter contre le terrorisme. Rien que dans le rapport avec les forces de sécurité et de défense, il a été partout démontré que lorsque les armées perdent la bataille du renseignement en se déconnectant avec les communautés locales, cela favorise aussi l'ennemi, cela favorise les groupes. Donc je crois que le Togo, qui est quand même un pays doté d'une stratégie, mais aussi d'une approche réfléchie, notamment dans la zone des savanes, pourrait intégrer cette dimension communautaire.
Voyez-vous des opportunités de coopération renforcées entre le Togo et ses voisins, y compris le Bénin, pour lutter efficacement contre cette menace transfrontalière?
Oui, il y a eu des tentatives et des initiatives, notamment l'initiative d'Accra qui a été un cadre opérationnel, mais, bien que cette initiative connaisse de plus en plus certaines difficultés. Aujourd'hui, je crois que les pays côtiers ne peuvent plus ne pas s'unir, en tout cas unifier leur force et leur stratégie pour plus de coordination, si l'on sait que les mêmes zones sont contiguës entre le Bénin et le Togo, et que c'est le même espace de déploiement depuis le Burkina Faso qui aussi favorise l'incursion de ces groupes aussi bien au nord du Togo qu'au nord du Bénin. Maintenant, il va falloir que des organisations régionales telles que la CEDEAO et d'autres, malgré les difficultés, essayent de trouver des solutions qui pousseraient ces États à coopérer de plus en plus, rien que dans l'échange de renseignements, mais aussi dans la coordination des opérations, si l'on sait que les groupes terroristes jouent aussi sur la création de zones d'instabilité qui parfois ne connaissent pas de limites.
Bakary Samb, directeur régional de Timbuktu Institute, Centre africain d'études sur la paix.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Au Sénégal, à une trentaine de kilomètres de Dakar, pour découvrir le drame écologique qui frappe la commune de Barni. Entre l'érosion côtière, la pollution des usines et l'accumulation de déchets plastiques, le littoral de cette localité est un véritable drame écologique. C'est un reportage de Wahani Johnson-Sambou au cœur d'une crise environnementale grandissante. Suivez.
Le calme apparent de la mer cache une réalité peu reluisante, celle d'une commune complètement défigurée par la furie des eaux. Des maisons abandonnées et d'autres en sursis. Un spectacle affligeant pour les populations de Barni, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Ici, les habitants assistent, impuissants, à la disparition progressive de leur localité.
Là où nous sommes, c'était des maisons, mais tout est en boue. On est obligé, quand une maison tombe, une chambre tombe, on rejoint l'autre chambre. Ça sont des pneus, des sacs de riz, vides remplis de sable. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, voilà.
Un ras-le-bol accentué par la présence d'usines pollueuses. Une cimenterie, une centrale à charbon, ainsi qu'un port minéralier et vraquier qui scandalise davantage les habitants. Face à ce désastre écologique, des activistes comme Medundoy Dimetza interpellent l'État.
Aujourd'hui, nos gouvernants doivent imposer à ces entreprises le respect de l'environnement, c'est-à-dire respecter le code de l'environnement, investir dans la politique RSE et changer aussi la méthode de tir de mine, la méthode de filtre. Et pour la centrale à charbon, il y a la possibilité de faire une transition énergétique.
Mais en attendant, les habitants ne peuvent que constater l'ampleur du drame écologique qui se joue sous leurs yeux. Ils semblent désarmés autant que les autorités municipales dont la politique environnementale peine à convaincre même ce conseiller municipal.
Les faits que nous constatons ici à Barni, c'est que la municipalité, des fois, elle loue ou bien elle noue des partenariats avec ces industries. Mais ce que je peux dire en termes d'appréciation, je dirais que la politique environnementale au niveau de la commune de Bargny est très très insuffisante par rapport à les défis.
Des défis qui concernent également la gestion des déchets plastiques, un autre signe des catastrophes environnementales qui étouffent le littoral de Bargny. Nos tentatives de recueillir les réactions de certaines des entreprises indexées sont restées sans suite. Wahani Johnson Sambou Dakar pour VOA Afrique.
Merci à Wahani pour son reportage. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, a conclu une tournée dans l'AES, Burkina Faso, Mali et Niger pour maintenir des relations saines et travailler sur la transition démocratique sans agir comme un médiateur officiel entre ces pays et la CEDEAO. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec l'analyste Ibrahima Khan, chargé de programme Open Society Initiative pour l'Afrique de l'Ouest. Au Siwa, Monsieur Khan, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quelle est l'importance des liens économiques et culturels entre le Ghana et les pays de l'AES dans le contexte actuel?
De très forts liens. Si vous prenez par exemple un pays comme le Burkina Faso, le Moronaba, qui est l'institution pratiquement qui symbolise l'existence de la haute voltaïque du Burkina Faso, les origines du Moronaba, c'est le Ghana. Ils viennent du Ghana et ils ont émigré du Ghana pour aller s'installer en haute voltaïque à l'époque qui est devenu le Burkina Faso. Donc ça vous montre à quel point les liens entre les communautés de toute cette région sont liés. Quant aux relations économiques, il y a la plus grande frontière que le Burkina a avec dans sa partie australe, c'est avec en partie avec le Ghana. Donc malheureusement, le Ghana était un pays anglophone et lui pays francophone. La tendance était à avoir des relations plus soutenues avec les pays francophones qu'avec les pays anglophones. Mais bon, la crise actuelle change les donnes. Et le Ghana veut certainement profiter de cette nouvelle situation pour se positionner. Si vous avez entendu ce matin ou hier les propos du président Draman avant de quitter Ouagadougou, vous comprendrez que à travers cette mission aussi, il y avait une volonté de positionner le Ghana dans le contexte du retrait des États de la Confédération du Sahel, de la CEDEAO.
Quel rôle Mahama pourrait-il jouer pour restaurer la confiance entre ces pays et la CEDEAO, et surtout en quoi cette tournée pourrait-elle influencer les relations entre les deux organisations?
Alors, une première chose qu'il faut comprendre, c'est que Mahama, avant même d'accéder au pouvoir, avait des relations très soutenues avec certains de ses leaders, comme le président du Mali. Rappelez-vous que lors de sa prise de fonction, pratiquement tous ces pays ont envoyé des délégués, mais à un niveau très élevé, pour assister à la prestation de serment. Ça vous donne une idée du type de relation qu'ils avaient avant même l'arrivée de Mahama. Ça, c'est la première chose intéressante. La deuxième chose intéressante, c'est que quand Mahama est venu au pouvoir, c'est dans ses premières déclarations, il a soutenu l'idée que ces États-là ne devaient pas partir et qu'il allait mettre tout en œuvre pour les dissuader, en tout cas, à défaut de les dissuader de partir, pour qu'ils gardent de meilleures relations avec la CEDEAO.
Alors, cette initiative n'est pas la première tentative. Comment la position de Mahama diffère-t-elle de celle du Sénégalais Bassirou Diomaye Faye ou se rejoignent?
Voilà, je pense que sa proximité avec les leaders fait que, à partir de l'instant où la séparation est actée, qu'ils puissent vraiment aider à l'établissement de nouvelles relations qui ne soient pas des relations conflictuelles. Vous savez que les deux parties se préparent pour des négociations qui vont certainement être des négociations très difficiles. Ce voyage de Mahama peut-être aide à arrondir les angles. N'oubliez pas qu'avant même de se rendre en tournée dans ces trois pays, la première visite qu'il a faite, il l'a faite au président du Sénégal. Et ils ont discuté de cette question. La dernière étant la visite avec le président de la Côte d'Ivoire, qui a également même proposé qu'il soit la personne qui ramène ces enfants-là à la maison du père. Je pense que cette visite vraiment sert de prise, en tout cas, savoir un peu ce que veulent les autres dans le cadre de ces négociations-là. Et ça, c'est vraiment une chose importante parce que de part et d'autre, il y a une bonne volonté qui est en tout cas mise en avant, communiqué des États de l'AES, communiqué de la CDAO, on garde les relations, on fait tout. Mais maintenant, il faut aller dans le concret, il faut poser des actes qui montreront que il y a eu des difficultés, mais que ces difficultés-là ne veulent pas dire séparation totale et qu'il y a possiblement des opportunités pour se retrouver encore. Et je pense que de ce point de vue-là, Mahaman est un homme qui peut jouer les médiateurs.
Merci beaucoup Ibrahima Kane pour toutes ces précisions. Pour la première fois dans l'histoire du tournoi annuel de lutte de la CDAO, des femmes ont pris part au combat. La 13e édition de ce tournoi, qui s'est tenue la semaine dernière à Abuja, a marqué un tournant important, se concluant le jour même de la Journée internationale des droits des femmes. Retour sur cette avancée significative pour les femmes africaines dans ce sport traditionnellement dominé par les hommes. Compte rendu, signé Jean-Roger Bion.
Pour la première fois, des lutteuses participent au tournoi africain de lutte de la CDAO, dont la 13e édition s'est déroulée au stade national MCO Abiola à Abuja, la capitale du Nigeria. Elles se félicitent des progrès réalisés. Céline Bakayoko, lutteuse ivoirienne de 33 ans, devenue professionnelle en 2019.
Je suis vraiment contente parce que depuis de la première édition à la 12e édition, il n'y avait pas de femmes. Pas de femmes et ça nous fait plaisir parce que les femmes savent lutter. Les femmes savent lutter, il fallait juste qu'on nous donne notre chance. Eux-mêmes, ils ont vu que le combat des dames et le combat des hommes, il n'y avait pratiquement pas de différence parce que les femmes luttaient autant bien que les hommes.
Le tournoi a rassemblé des lutteurs et lutteuses de 11 États membres de la CDAO et le tournoi fait partie de la célébration du 50e anniversaire de l'organisation. Jocelyne Asama Asante, lutteuse ghanéenne, estime que les femmes ont tiré leur épingle du jeu.
This tournament has taught me to be, should I say, patient.
Ce tournoi m'a appris à être patiente, à endurer, parce que la lutte elle-même exige d'être capable d'endurer pour pouvoir gagner.
La lutte traditionnelle en Afrique de l'Ouest, pratiquée principalement par des hommes au physique parfois proche de celui des sumo, est un sport populaire à travers la région, des stades vibrants du Sénégal aux villages désertiques du Niger. Bien que le tournoi constitue une avancée pour les femmes de la région pratiquant ce sport dominé par les hommes, d'autres progrès sont à faire selon les lutteuses. Yvonne Ami, lutteuse, vient de Côte d'Ivoire.
Bon, c'est déjà un grand pas et puis c'est un honneur pour nous les femmes d'abord d'avoir participé à ce tournoi. Parce que c'est la première fois et ça met l'ouverture sur l'égalité des sexes, hommes et femmes. Et moi, ça me fait vraiment plaisir.
Le Niger, champion de l'année dernière, est cette année le grand absent des combats, tout comme le Mali et le Burkina Faso.